Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Alors que la Coupe du Monde au Qatar est critiquée de toutes parts, l'amour du football peut-il rester intact chez les supporters? Nous sommes en duplex avec Carole Gomez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du sport et vous êtes directrice de recherche associée à l'IRIS. Et dans ce studio, un footballeur, je l'ai dit, Vikash Dorasu, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, Vikash Dorasu. Vous êtes consultant pour l'équipe et Canal+. Et il faut tout d'abord, évidemment, que l'on parle du match d'hier. Un match qui s'est soldé par une victoire éclatante des Bleus 4-1, même si l'entame faisait un peu peur. Vous l'avez suivi, ce match? Qu'en avez-vous pensé?
Oui, on a eu un peu peur parce qu'ils ont été menés, puis on jouait pas bien pendant la première demi-heure. Et puis après, on s'est repris. L'Australie est pas une grosse équipe, donc elle nous a pas mis en difficulté, notamment dans l'agressivité, dans le combat. Et donc après, quand on a une super attaque, on a gagné assez facilement finalement.
Bon, alors ça a été particulièrement éclatant pour Giroud, qui est maintenant à jamais dans l'histoire.
Ouais, c'est incroyable ce que fait ce joueur, parce qu'il est jamais attendu. Et puis il a 51 buts, il a égalisé le record de Thierry Henry. Hier, normalement c'est Benzema qui aurait dû jouer à sa place, et c'est lui qui est là, et quand il est là, il marque.
Et alors, l'autre question, c'est évidemment celle d'Adrien Rabiot, qui là aujourd'hui également s'est illustré sur le terrain.
Oui, c'est il fait la passe de but et puis il marque le premier but et puis il récupère le ballon, il fait la passe de but, il a fait un gros match. Mbappé aussi a été assez incroyable. Puis après, il y a aussi la charnière centrale qui est très jeune et qui a tenu le coup, donc c'est très encourageant pour la suite.
Et ce qu'il faut quand même noter, puisque vous avez parlé d'Mbappé, on a parlé de Rabiot, de Giroud, beaucoup de personnes blessées, à commencer bien sûr par Karim Benzema. Autrement dit, cette équipe de France, elle va jouer avec beaucoup de personnes au vestiaire.
Kanté, Pogba, Kimpembe, Nkunku, meilleur joueur d'Allemagne, et évidemment le Ballon d'Or. Et puis hier soir, Lucas Hernandez, pardon, qui est remplacé par son frère. Donc, là, hier, on a vu Théonard très bon,
hier soir.
Mais Deschamps n'a plus l'arrière gauche de rechange.
Ce qui veut dire malgré tout que c'est une configuration qui, a priori, n'est pas optimale.
Ouais, moi, je suis quand même un petit peu inquiet pour notre milieu de terrain. Je ne sais pas ce que va faire Deschamps à l'avenir, mais l'équipe là, dans l'axe, si Varane ne revient pas, c'est très jeune, peu de sélections. Donc voilà, à un moment, le niveau va s'élever, la pression va être très forte. Les joueurs en face sont très expérimentés. Si on joue l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine et toutes ces grosses équipes, l'expérience joue beaucoup. Voilà, on peut se révéler pendant une Coupe du Monde. C'est ce qu'on doit souhaiter à tous ces jeunes joueurs.
Et réussir à faire effectivement un doublé. Alors ça, c'est pour le volet footballistique de cette Coupe du Monde, qui est un volet, mais un volet bien mince par rapport aux différentes polémiques que cette Coupe du Monde suscite. Carole Gomez, ce match des Bleus hier, est-ce qu'il a été regardé? On sait en tout cas que le mouvement de boycott, le mouvement de refus de cette Coupe du Monde telle qu'elle est organisée aujourd'hui par le Qatar est très présent en Europe, par exemple, il l'est moins dans d'autres parties du monde.
Oui, effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas encore complètement, dont on ne dispose pas des chiffres. Il sera intéressant de faire une analyse une fois que les chiffres seront sortis. Vous avez complètement raison de signaler le fait qu'il y a beaucoup de remarques, beaucoup de critiques, beaucoup d'enquêtes qui sont menées sur différents sujets, la question des droits humains, la question de l'environnement, la question de l'attribution aussi de cette Coupe du Monde, mais qui sont principalement polarisées au sein d'un certain nombre de pays, principalement des pays occidentaux, principalement des pays de l'Europe, enfin de l'Europe, mais plus largement des pays occidentaux, et que on a au final peu de remarques, peu de critiques qui sont perceptibles dans d'autres parties du monde. C'est quelque chose qui va être intéressant de suivre dans les prochaines semaines pour voir si c'est quelque chose qui prend de l'ampleur ou qui au contraire se tasse. Il me semble aussi important de signaler, ça c'était une communication de la part de la FIFA, de s'interroger aussi sur ce boycott médiatique qui a longtemps été présenté comme étant une possibilité, une un scénario qui pourrait justement permettre de protester contre cette symboliquement et économiquement contre cette Coupe du Monde. Les premiers résultats semblent pour le moins contrastés, puisqu'il semblerait que ce match d'ouverture qui a donc eu lieu dimanche ait fait une meilleure audience mondiale que la précédente Coupe du Monde. Alors là encore, comparaison n'est pas raison, puisque la précédente Coupe du Monde qui se déroulait en Russie se déroulait en juin, donc avec des horaires aussi qui étaient particuliers, alors que cette année elle s'est déroulée donc en novembre, en plein milieu d'un dimanche après-midi, donc ce qui peut aussi expliquer ces éléments. Donc il va être très important de regarder avec attention ces chiffres-là, de pouvoir les comparer dans la mesure du comparable, puisque là encore il va falloir savoir raison garder sur un certain nombre d'analyses qui pourront être faites.
5 millions de téléspectateurs en France, c'est le signe, Vikash Dorasu, que cette Coupe du Monde est loin d'avoir été boycottée. Le match a été extrêmement suivi. Vous, en tant que grand joueur de foot, comment vous vivez cette période? Est-ce que pour vous, il y a des dilemmes? Est-ce que au contraire, le foot doit l'emporter?
Non, il y a des vrais dilemmes. Voilà, je suis conscient de ce qui se passe là-bas, moi, c'est surtout l'attribution et qui attribue. Moi, je pense qu'il faut aller viser la FIFA, attaquer la FIFA. Il faut vraiment regarder cette organisation qui est très opaque. Voilà, les gens qui dirigent cette organisation ont un but important, c'est de gagner beaucoup d'argent, de se faire beaucoup d'argent et de truster les postes et de se placer pour un long moment. On le voit encore avec l'histoire du brassard de arc-en-ciel des capitaines, là. La FIFA s'est imposée, elle a gagné, alors que les pays auraient pu désobéir et reprendre un peu de pouvoir, notamment les joueurs de foot.
Alors là, il faut expliquer cela, parce que Hugo Lloris, donc, a expliqué, le capitaine de l'équipe des Bleus, a expliqué qu'il ne porterait pas de brassard, parce que lorsqu'on se rendait chez des gens, eh bien, on se conformait à leurs mœurs, c'était son explication. Ce que l'on a appris parallèlement, Vikash Dorasu, c'est que la FIFA a menacé de pénaliser sportivement les équipes qui porterait un brassard, c'est-à-dire que les équipes étaient éventuellement prêtes à payer une amende, mais ça n'est pas ce type de sanction qui était agité par la FIFA.
Oui, mais je pense que s'ils avaient été tous ensemble soutenus par leur fédération, soutenus aussi politiquement, ils peuvent y aller, ils peuvent gagner. C'est la FIFA peut plier, il suffit d'être vraiment organisé et donc de refuser les sanctions. Je veux dire, mettre un brassard quand on est hors du Qatar, c'est autorisé. Pourquoi on pourrait ne pas le mettre? On serait interdit de le mettre ailleurs que la FIFA ne doit pas décider de ce qu'on doit faire sur un terrain de football, notamment juste pour un brassard. Donc je trouve que c'était important d'aller jusqu'au bout. Alors ils menaçaient de la suspension, ils avaient qu'à changer de joueur qui portait le brassard à chaque match, comme ça aurait été. Et puis après ils peuvent aussi refuser les sanctions. En fait, on peut aller très très loin, hein. Je veux dire, le footballeur, quand il s'organise et quand il s'oppose aux fédérations, il peut gagner et il gagne souvent quand il est ensemble. Seul, c'est pas bon. Les Danois ont failli y aller tout seul, je pense que ça c'était pas une bonne idée. Mais j'étais super surpris que 7 pays qui étaient prêts à y aller abandonne. Donc vraiment, c'est la FIFA qu'il faut aller viser.
Mais alors, la FIFA, donc, c'est
Et je juge pas, parce que c'est difficile, hein, je ne suis pas à leur place. Moi, je suis plus joueur de foot, c'est plus facile pour moi de parler. Mais j'aurais aimé être à leur place là et de pouvoir donner... parce que dans un vestiaire, il faut savoir que tout le monde n'est pas d'accord. Il faut discuter et puis après prendre une décision. Et là, le premier mis en cause, c'est quand même le Graet. Le Graet, très vite, qui dit non, il faut pas mettre le brassard arc-en-ciel. Et le Graet, sur toutes ses prises de position, qui dirige la Fédération Française de Foot...
qui est très contesté par ailleurs.
Très contesté, oui, parce que un des points importants dans la Fédération Française de Foot, c'est de lutter contre toutes les discriminations et les inégalités. Et quand il prend des positions sur le racisme, sur l'homophobie, sur le sexisme, c'est très mauvais. Et il est toujours président de la Fédération Française de Foot et il donne le ton à la Fédé. Et donc, Lloris a suivi son président.
Mais pourquoi, d'après vous? Parce que alors, c'est compliqué de juger quand on n'est pas joueur de foot, mais vous l'êtes, Vicage Doré.
Oui, c'est difficile parce que nous, on a envie de rester joueur de football et puis on n'est pas responsable de ce qu'a fait la FIFA. La FIFA a attribué la Coupe du Monde au Qatar et nous, on n'a rien demandé. Alors, il faut s'organiser, joueur de foot, créer des syndicats, par exemple, qui pourraient être consultés et donner son avis sur ce genre de situation, sur l'attribution notamment. Mmh. Et donc, après, on pourra être visé. Mais tant qu'on n'a pas notre mot à dire, on ne peut pas nous viser.
Qu'est-ce que vous en pensez, Carole Gomez? Est-ce que tout cela dévoile le foot business, le poids de Gianni Infantino, qui est l'actuel président de la FIFA, qui est lui aussi extrêmement contesté?
Oui, effectivement, je rejoins Vicage Doré sur un certain nombre de points. Il me semble intéressant de revenir sur la décision de la FIFA, qui, il faut le rappeler, a quand même beaucoup tardé. La volonté de porter un brassard aux couleurs arc-en-ciel a été mise sur la table depuis déjà plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois que des réponses sont attendues de la part de la FIFA, notamment sous la houlette d'un certain nombre de fédérations européennes qui ont fait cette proposition, puis ensuite qui ont proposé un nouveau brassard qui ne porterait pas les couleurs LGBT, mais qui serait un brassard One qui symboliserait la lutte contre les discriminations. Et finalement, cette décision a été prise un peu au tout dernier moment. Elle est intervenue vraiment alors que certains matchs avaient déjà presque commencé. Et pour le coup, on n'a pas encore complètement toutes les réponses aux questions que cela soulève, mais on peut peut-être formuler plusieurs hypothèses sur la raison de cette décision si tardive. La première, c'est effectivement, comme l'a dit Vikash, étant seul, une décision comme celle-ci, le fait de porter un brassard et de du coup s'opposer à la fédération, le fait d'y aller seul ne marchera pas. Ce qui marche en revanche, c'est le fait d'être coordonné. Et je pense que la FIFA avait aussi ce secret espoir de voir cette initiative complètement se déliter, où on voit les fédérations les unes après les autres douter, faire marche arrière, et c'est exactement ce qui a été le cas avec la Fédération Française de Football, qui au début était en faveur de cette réflexion, de cette mobilisation, et qui petit à petit, par la voix de son président, puis par la voix de son capitaine, s'est désengagée. Une deuxième hypothèse que l'on peut formuler peut-être, c'est aussi celle que la FIFA ne s'attendait pas forcément à être prise sur ce sujet, à la différence de l'UEFA, l'UEFA qui a de très nombreuses reprises dû gérer un certain nombre de questions concernant les maillots, concernant les brassards, concernant les messages politiques. La FIFA se retrouve quant à elle assez peu au fait de ces questions. Donc il peut aussi y avoir une espèce de manque de préparation ou de volonté de retarder au plus possible cette échéance. Et puis il y a aussi cette temporalité qui m'interroge, et le fait aussi de se dire que si cette décision est annoncée au tout dernier moment, c'est aussi pour empêcher une riposte de la part des équipes. C'est ce que disait Vikash, pris au dernier moment, mis au pied du mur, les fédérations, les équipes, les joueurs n'ont pas pu imaginer, n'ont pas pu envisager d'autres scénarios. On aurait pu penser à mille autres actions qui auraient pu être envisageables si les fédérations, si les joueurs l'avaient souhaité. Là, le fait d'avoir annoncé quelques heures à peine avant le début d'un match, ça met forcément dans l'embarras un certain nombre de fédérations, en sachant que là encore, il ne faut pas non plus oublier qu'on est pendant une Coupe du Monde qui constitue le point d'orgue dans la carrière de ces joueurs et de ces athlètes de haut niveau, et donc on peut aussi penser que ils auront probablement d'autres préoccupations, même si ça peut être une cause qui les tient très fortement à cœur. Et il y a un autre élément qui me semble aussi intéressant à souligner, c'est le fait que la FIFA a refusé cette initiative, a menacé de sanctions sportives, ces fédérations et ces joueurs, mais en même temps a voulu donner le change en inventant une réponse qui avait tendance justement à peut-être un peu diluer ce message, puisqu'elle a considéré que la lutte contre les discriminations était un sujet très important, mais qu'il était tout aussi important que d'autres thématiques comme la question de la nutrition infantile, comme la question de la protection de l'environnement, et elle a donc décidé de voilà. Pour chacune des journées, elle a donc décidé de mettre en avant un message politique qui permet ainsi de peut-être un peu diluer.
Effectivement, comme vous dites, de diluer ce message. Vikash Dorasu, est-ce que vous avez déjà vécu ce type de dilemme lorsque vous étiez sur le terrain, des moments où vous étiez bien sportivement, mais mal politiquement?
J'ai quand même joué pour Silvio Berlusconi, donc j'ai carrément signé au Milan AC. Et c'est vrai que on était là, c'est puissant ce qui se passe, parce que médiatiquement tout le monde en parle. Voilà, il y a tous les médias qui s'y sont mis. Le Qatar pensait être tranquille. Donc joueur de foot aujourd'hui, on peut pas passer à côté de ce qui se passe. Donc c'est pas le même moment. Voilà, moi ça m'est jamais arrivé. J'en ai pas le souvenir. La FIFA a peur d'un truc, c'est la retransmission du match, en fait. Mais les joueurs de foot, là, quand ils sont tous ensemble, s'ils décident de nous, on n'y va pas, on joue pas, les fédérations reprennent le pouvoir, on se présente pas, on joue pas. L'UEFA a plié face aux joueurs qui ont posé un genou à terre. Les Anglais, par exemple, l'ont encore fait lors de leur premier match. Ils ont posé un genou à terre pour soutenir dénoncer les violences policières. L'UEFA est obligée d'accepter. Il y a eu le match Başakşehir PSG où il y a eu un acte raciste, une parole raciste d'un des arbitres. Les joueurs de foot ensemble, les deux équipes ont refusé de revenir et l'UEFA est obligée de plier de nouveau.
Mais d'un côté, on sait bien aussi, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, que les dirigeants du foot ont toujours été mous, j'utilise un euphémisme, pour lutter contre le racisme dans le sport ou l'homophobie.
Ah oui, évidemment, oui. C'est pour ça que j'invite les joueurs de foot à se mobiliser, à aller truster les postes. Faut savoir que plus de 60%, je crois, que des joueurs en France sont issus de l'immigration. Et évidemment, quand il y a des actes racistes, par exemple, pendant un match de foot, les cris de singe, par exemple, les gens qui les représentent, qui prennent les décisions, ne sont pas touchés par le racisme. Donc, il faut aller chercher ces postes-là pour se sentir représentés et pour représenter ceux qui sont sur le terrain. Nous, les joueurs de foot, on a souvent le droit de courir et on n'a jamais le droit d'avoir les postes importants. Donc il faut y aller, il faut créer des listes et se présenter.
Quand vous en parlez justement avec les autres joueurs de l'équipe, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que se disent les joueurs de foot au vestiaire là-dessus? Je ne parle pas du jeu, je parle justement des manifestants.
Ça fait longtemps que je ne suis plus dans un vestiaire, mais je vois bien qu'il y a les cris de singe autour dans un stade. Les joueurs de foot sont très touchés, mais ils sont isolés. Ils sont seuls, ils ne sont pas accompagnés. On a un syndicat en France qui s'appelle l'UNFP. Je ne sais pas trop s'il agit dans ce genre de situation. En tout cas, la Ligue n'agit pas beaucoup. Ça ne les intéresse pas.
Mais pourquoi ça les intéresse pas? Parce qu'ils savent que le milieu des supporters est gangréné par ce type de comportement?
Oui, ça les intéresse pas, parce que ce qui est important, c'est que le spectacle continue, voilà, le match continue, la diffusion du match continue. On l'a vu parfois, même des entraîneurs forcer les joueurs à reprendre le match. Alors, il y a le résultat, mais il y a aussi la diffusion qui est importante pour les fédérations et les ligues.
Vikash Dorasu, vous êtes ancien joueur de foot et consultant pour l'équipe et Canal+. Carole Gomez, vous êtes sociologue du sport et directrice de recherche associée à l'IRIS. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer cette Coupe du Monde au Qatar et les différents problèmes politiques, éthiques qu'elle pose. Vous serez rejoint par l'écrivain Olivier Guèze. Il a notamment publié Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football aux éditions de l'Observatoire. 8h sur France Culture.
7h-9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Une aberration écologique, non-respect des droits humains, soupçons de corruption, la Coupe du Monde qui se tient au Qatar depuis le 20 novembre dernier concentre à peu près toutes les critiques et met les supporters face à un dilemme. Faut-il ou non suivre le mondial? Nous sommes en compagnie de Vikash Dorasu, ancien footballeur, consultant pour l'équipe et Canal+, Carole Gomez, sociologue, directrice de recherche associée à l'IRIS, et nous accueillons Olivier Guèze. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Guèze, vous êtes écrivain et on vous doit notamment Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football aux éditions de l'Observatoire. Alors, avez-vous déjà suivi ce mondial ou l'avez-vous boycotté, Olivier Guèze?
Alors, j'ai tenu jusqu'à hier soir.
À quelle heure?
Je ne pourrais pas vous dire, mais je n'ai pas vu le début du match. Et puis, bon, je me suis rapproché de la télévision finalement. Non, c'est un vrai dilemme, c'est pas simple. Mais je me rends compte que, disons jusqu'à dimanche, donc début du mondial, je pensais pas du tout au mondial. Pour la première fois d'ailleurs de mon existence de passionné de football, plus que de supporter, vraiment de passionné de football, depuis 82, c'était ma première Coupe du Monde. Et là, je me rends compte qu'au fil des jours, je regarde de plus en plus régulièrement le calendrier, je vois, il y a un certain nombre d'équipes que j'aime suivre en général pendant une Coupe du Monde. Je commence à regarder quel est leur calendrier, quand est-ce que les matchs sont diffusés, les huitièmes. Donc, je sens, ouais, ça tiraille de partout et j'ai l'impression que les digues sont en train de sauter, ce dont je ne suis pas fier, mais je pense qu'un certain nombre d'amateurs de football se retrouvent dans la même situation que la mienne.
Un peu plus de 5 millions de Français sont dans votre cas, apparemment.
5 millions, et puis moi je pense aux milliards. Alors, je pense qu'on n'est pas... Il n'y a pas de milliards d'êtres humains déchirés. Je pense que c'est un phénomène très occidental, d'Europe occidentale.
Apparemment, même aux États-Unis, ça n'est pas du tout le cas.
Bon, aux États-Unis, on se fiche assez royalement encore du football. Et je pense pour toujours, bon, ils auront la prochaine Coupe du Monde, on verra bien. Mais effectivement, j'y étais encore la semaine dernière. Personne n'a jamais mentionné la Coupe du Monde, même pas à la une d'un journal ou quoi que ce soit.
Vikash Dorasu, c'est un moment difficile. Est-ce que les joueurs vous ont fait des confidences? Est-ce que vous savez ce que vivent là-bas? Parce que ça doit pas être facile d'avoir à la fois la pression de la Coupe du Monde et la pression de ce regard extérieur qui est plutôt hostile à cette Coupe du Monde pour la France.
J'ai eu aucun contact avec eux. C'est plus ma génération. J'imagine qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Ils sont informés. Ils sont touchés. On est conscient du monde dans lequel on vit. Et puis après, ils préparent leur compétition. Ils sont très protégés. Voilà. Donc, ça doit être difficile pour eux parce qu'ils doivent jouer, bien jouer et en même temps, pas être indifférents à ce qui se passe. Ça doit être compliqué. Hein.
Ça doit être compliqué, Olivier Guez.
Pour certains, peut-être. Après, un certain nombre sont quand même salariés par le Qatar. Hein. Au PSG, entre autres, et où le Qatar étant le principal sponsor ou l'un des sponsors d'un nombre de plus en plus important d'équipes, je ne pense pas non plus qu'il soit totalement tiraillé. Ou alors il serait tout à fait naïf et peut-être que certains découvrent ce qu'est le Qatar et comment fonctionne le Qatar juste depuis deux semaines. Ça m'étonnerait quand même. Donc, non, je pense, ce sont des sportifs de très haut niveau. Ils disputent la plus grande compétition. Pour eux, c'est vraiment le Graal. À mon avis, ils sont très concentrés. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir de ça? Je suis pas certain non plus. Je pense que c'est ce dont vous avez parlé un petit peu dans la première partie de l'émission. C'est le problème, il est en amont. Le problème, c'est la FIFA. Le problème, c'est le Qatar. Mais là, on fait semblant de découvrir un petit peu de comment fonctionne le Qatar depuis quelques semaines. Mais tout ça est très clair depuis 2010, quand la Coupe du Monde a été offerte au Qatar à ce moment-là.
Bon, il faut dire aussi que la dernière Coupe du Monde se déroulait en Russie. On peut retrouver d'ailleurs certains badges qui sont désormais collector, tous en Russie. Et il y avait aussi matière à s'interroger, Olivier Guez.
Oui, absolument. Mais ça montre bien aussi comment fonctionne la FIFA, c'est-à-dire une Coupe du Monde en Russie, une Coupe du Monde au Qatar. Et je pense qu'en Russie, on a tous été un petit peu naïfs. La Crimée avait été envahie 4 ans plus tôt. Ça n'a fait bouger personne. Il n'a jamais été question de boycotter la Russie. Poutine, moi j'avais suivi la Coupe du Monde en Russie. J'y avais passé 5 semaines pour le quotidien Le Monde. Poutine avait été d'une intelligence remarquable à ce moment-là. Il n'était jamais apparu, en fait. Il était venu au premier match, il était venu à la finale. Il n'aime pas le football, il s'en fiche royalement. Et surtout, pour les gens qui ne savaient pas exactement ce qui se passait en Russie et ce qu'était déjà ce régime autoritaire, on pouvait croire que la Russie était un pays à peu près normal et presque démocratique et libéral à ce moment-là. Poutine avait été extrêmement intelligent. Mais effectivement, ça n'avait pas suscité les mêmes vagues que cette Coupe du Monde au Qatar. Mais réjouissons-nous plutôt de voir la réaction des citoyens vis-à-vis de cette Coupe du Monde. Ça sera peut-être il y aura peut-être une étape, il y aura peut-être un avant et un après par rapport à la désignation de grands tournois. Et encore, je pense que même ça, c'est faire preuve de naïveté, d'une certaine manière.
C'est vraiment que la FIFA peut bouger
Non, la FIFA ne bougera
en
pas.
En tout cas, après, tant que Gianni Infantino, donc son président actuel...
Et tant qu'il vivra au Qatar, par ailleurs...
Parce qu'il faut le souligner, voilà.
Il vit quand même au Qatar, Gianni Infantino. On n'a jamais vu un président de la FIFA vivre dans un pays désigné pour la Coupe du Monde. Je pense qu'il y vit très bien, qu'il a toutes sortes de facilités. Et on ne peut pas compter sur Infantino pour critiquer, évidemment, le choix de ses prédécesseurs, puisque lui n'était pas président de la FIFA à l'époque.
Le foot business, c'est quand même quelque chose, Vikash Dorasso.
Oui, j'en ai fait partie. C'est quelque chose, ouais.
C'est quelque chose qui, lorsqu'on prend par exemple l'exemple de Gianni Infantino, c'est à la fois étonnant de voir en fait comment ce système peut, au vu et au su de tout le monde, prendre des décisions qui ne peuvent être dictées que par des intérêts matériels, avec ce que l'on voit et ce que l'on imagine, même si on ne le voit pas, autrement dit la corruption, les sommes qui sont échangées pour aller dans les poches des uns et des autres.
C'est pour ça qu'il faut aller regarder la FIFA, aller lui demander des comptes, regarder le cahier des charges, voilà, peut-être le modifier. Mais moi, je pense que vraiment, les footballeurs ont leur mot à dire. La prochaine Coupe du Monde, l'Euro récent, a été joué dans toute l'Europe. Donc au niveau écologique, ce n'était pas génial. La prochaine Coupe du Monde sera jouée dans 3 pays, Canada, Mexique et États-Unis. De nouveau, dans les États-Unis, un pays où dans certains États, la peine de mort est appliqué et l'IVG, le droit à l'IVG bafoué. Donc il y a plein de problèmes. Il faut vraiment regarder la FIFA. Et moi, j'encourage les joueurs de foot à se mobiliser. Et quand on parle du foot business, je me dis que les joueurs de foot pourraient même rentrer en co-organisation du football, en co-réalisation, et prendre une part du gâteau qu'ils pourraient redistribuer, par exemple. Redonner, ils le font déjà sur leur salaire et leur prime actuel.
Mais il faut comprendre comment fonctionne la FIFA. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la FIFA, mais j'ai quand même consacré un chapitre de mon dernier essai, justement, sur après la Coupe du Monde, parce que je l'ai vu un petit peu de près, justement, en Russie. La FIFA, c'est une organisation mondiale, bien évidemment. C'est un cartel ultra puissant et qui fonctionne notamment avec de toutes petites fédérations, puisque finalement les Coupes du Monde sont attribuées en fonction d'un certain nombre de voix, bien évidemment. Et donc vous avez toutes sortes d'îles caribéennes, par exemple, qui comptent autant quasiment que les grandes fédérations européennes. Et toutes ces fédérations se partagent un magot de plus en plus important, lié notamment aux droits de transmission. Et au fond, l'Europe a perdu totalement sa prééminence. Tout ce qu'on raconte là ce matin, tout ce qui se raconte depuis quelques semaines sur le Qatar, c'est une vue tout à fait vraiment propre à l'Europe occidentale. Je suis très branché Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, on se réjouit simplement de jouer une Coupe du Monde. Il y a cette vision du Sud qui n'est absolument pas la nôtre. Cette histoire de Brassard, par exemple, est-ce que vous pensez vraiment que la Fédération d'Arabie Saoudite, si toutes les fédérations s'étaient parlé avant la Coupe du Monde, est-ce que vous pensez vraiment que la Fédération d'Arabie Saoudite aurait soutenu une telle initiative? Évidemment que non. On est au Qatar, par ailleurs, où l'homosexualité est un délit, donc ça n'avait aucune chance. Il y a une forme de naïveté, un petit peu. Je trouve qu'on se réveille extrêmement tard, alors que cette affaire est officielle depuis 12 ans maintenant. Je pense que les Français ont joué un rôle catastrophique là-dedans, et on en a parlé beaucoup trop tard aussi. Et là, c'est ce qui choque le plus, cette histoire du Brassard, mais c'est aussi faire preuve d'une naïveté. Où joue-t-on la Coupe du Monde? Dans un pays qui pénalise l'homosexualité. Donc, je suis un peu surpris, quelque part.
Mais alors, par ailleurs, donc, comme on l'a noté, il y a l'organisation de la Coupe du Monde de foot masculin. La Coupe du Monde de foot féminin, elle, n'a pas lieu au Qatar, Carole Gomez. C'est une manière de voir quand même que la FIFA n'a pas été complètement déraisonnable, si j'ose dire.
Oui, si vous me permettez juste de revenir sur ce qui a été dit précédemment, je suis effectivement en accord avec un certain nombre de propos, même si à mon sens, il y a plusieurs éléments qui méritent quand même quelques commentaires. Le premier, c'est D'ailleurs, ce qu'on a très largement entendu la semaine dernière avec la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron sur la nécessité de ne pas politiser le sport, avec un peu cette impression qu'il fallait, le reproche qui est fait est de celui de, il aurait fallu se réveiller avant. En réalité, quand on se penche sur l'historique et sur les jours et les mois qui ont suivi cette désignation qui est intervenue le 2 décembre 2010, on se rend compte qu'il y avait eu, certes, et je rejoins complètement Olivier Guay sur ce sujet, une forte polarisation et une forte attention, notamment dans certains pays du monde, de certains pays occidentaux, mais qui ont très rapidement mis en avant ce dont on parle aujourd'hui, les questions de corruption, les questions de liberté d'expression, de droits humains, de droits des travailleurs, droits des personnes LGBT, droits des femmes. Et c'est quelque chose qui, en réalité, a commencé véritablement à se structurer au tournant des années 2011, en 2012. Je suis retombée sur un rapport d'Amnesty International qui avait été publié en 2013, qui justement attirait d'ores et déjà l'attention sur ce sujet-là et sur la question des droits des travailleurs et des travailleuses. Donc, à mon sens, ce reproche qui est fait de ne s'intéresser que trop tard, il est audible, mais il me paraît pas complètement juste. Par contre, ça soulève la vraie question qui est, ces éléments ont déjà été mis en avant, ces remarques ont déjà été faites, en revanche, ça n'a pas imprimé dans l'imaginaire collectif, les débats n'ont pas eu lieu, il n'y a pas eu cette discussion que l'on a aujourd'hui sur est-il véritablement opportun de se rendre au Qatar, alors que l'on sait maintenant que c'était quelque chose qui était d'ores et déjà jouer d'avance. On savait évidemment qu'il n'y allait pas y avoir de boycott. Mais ça me semblait important de revenir dessus.
Sur le foot féminin.
Et sur le foot féminin, c'est effectivement, alors on est encore dans une logique très différente. Il faut avoir en tête que la première Coupe du Monde masculine a eu lieu en 1930 en Uruguay, la première Coupe du Monde féminine a eu lieu en 1991, ce qui montre bien à quel point il y a un décalage important entre ces deux footballs-là, en dépit d'un certain nombre d'annonces qui ont été faites par la FIFA à partir de 2018. Il est intéressant de noter que la FIFA s'est rendu compte que la deuxième moitié de l'humanité pouvait aussi jouer au football et a donc décidé en 2018 de pouvoir lancer son premier plan de développement du football féminin. 2018, il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et la prochaine Coupe du Monde en 2023 interviendra en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et l'idée, ce sera aussi d'essayer de relancer un peu cette dynamique quelque chose d'assez intéressant en 2019 quand elle avait été organisée en France, qui malheureusement avait été complètement freinée par la pandémie de Covid, et où on sait, plusieurs études l'ont démontré, dans le domaine du sport comme dans le domaine de la politique générale, que le secteur qui concerne les femmes, les activités concernant les femmes, ont été les premières victimes, les premières touchées, les premières activités arrêtées pendant cette pandémie. Donc cet enjeu de la Coupe du Monde 2023 sera à bien des égards complètement essentiel pour justement montrer que beaucoup de choses restent à réaliser, que des progrès ont été faits, mais qu'il ne s'agit pas de s'arrêter en si bon chemin.
Donc c'est une date importante pour vous. Vicage Dorasou, justement, est-ce qu'on peut se dire au moins que le foot féminin, même si lui aussi peut être entaché d'un certain nombre d'affaires, est-ce que malgré tout c'est une forme de sanctuaire où l'argent est moins présent, donc où on peut avoir moins affaire à de la corruption, à un certain nombre de tares qu'on retrouve dans le foot masculin?
Oh, j'imagine que ça va vite ressembler, si ça ne ressemble pas déjà à ce qui se passe. Moi je remarque que les Américaines ont dû se battre par exemple pour avoir l'égalité salariale dans leur pays, alors qu'elles gagnent régulièrement et que les hommes n'étaient même pas allés à la Coupe du Monde. Et en France, on n'est toujours pas à l'égalité salariale entre les joueuses de l'équipe de France et les joueurs. Et c'est pas d'actualité, on va être encore à la traîne, encore les derniers. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans pour le foot féminin. Et malheureusement, ça a été freiné. Mais là, alors tout le monde disait, mais quand elles gagneront et si elles gagnent la Coupe du Monde qui a eu lieu en France, on fera quelque chose. En fait, il faut le faire sans les victoires. Il faut y aller, quoi. Il faut favoriser ce sport et que les femmes puissent être mises en avant, elles aussi.
Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Guez?
Je pense que pour l'instant, le football féminin n'a pas la même symbolique que le football masculin. Donc, il ne véhicule pas la même importance en termes de soft power, que les sommes qui tournent autour du foot féminin sont encore beaucoup moins importantes. Le jour où on en arrivera à ce stade-là, je pense qu'il y aura la même corruption. C'est-à-dire que ça deviendra un enjeu de pouvoir, comme la Coupe du Monde est devenue un immense enjeu de pouvoir aujourd'hui. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas d'ici quelques années.
Ce que l'on a vu également autour des autres controverses, parce que maintenant, les joueurs de foot sont à l'intérieur de la société, à l'intérieur des débats sociétaux. On a vu aussi le thème de l'écologie qui a été abordé via, par exemple, la question du transport des joueurs. Cela signifie probablement, Olivier Guèze, que les clubs de foot vont devoir caler leur communication, peut-être aussi leurs actes, à un certain nombre de questions qui sont des questions débattues dans la société tout entière parce qu'ils font office de symbole. Est-ce qu'ils en prennent conscience, selon vous ?
Difficile à dire. Je leur parle pas tous les jours, voire même jamais. Mais en tout cas, disons que le football international de très haut niveau est organisé encore comme au XXe siècle. Lorsque vous avez une Coupe du Monde au Qatar, et ben vous avez des centaines et des milliers d'avions qui débarquent. Certains viennent pour 2 jours, 3 jours. C'est pareil quand vous avez des Coupes d'Europe et même des déplacements dans les territoires nationaux. Donc ça pose le problème de l'organisation du football international. Après, j'ai du mal à croire qu'une équipe qui fera des déplacements en Ligue des Champions prendra le train. Je pense que ça va devenir un problème, mais comme pour l'ensemble de notre société. Et c'est sûr que les Français avaient été ultra choqués par la réaction débile, il faut quand même le souligner, de Mbappé, de Galtier, l'entraîneur du PSG, quand on leur avait posé la question de ces déplacements. Donc oui, ils vont être scrutés, mais comme tout est scruté aujourd'hui. Mais encore une fois... toutes ces questions-là, et la question environnementale est super importante, mais c'est quand même une vision d'Europe occidentale. Pour l'instant, dans le Sud, on ne voit pas les choses comme ça. Peut-être pas sur la question environnementale.
Pourquoi ? Parce que vous pensez que sur la question environnementale, il y a plus, effectivement...
On a bien vu, je veux dire, Bolsonaro a perdu la présidence, mais enfin, il y a quasiment la moitié des Brésiliens. Bolsonaro a rasé la moitié de la forêt amazonienne ces 4 dernières années. Ça n'a pas empêché les Brésiliens, enfin c'est un mouvement hyper fort. La moitié de l'équipe du Brésil aujourd'hui, si on fait le lien avec l'équipe de football, est pro-Bolsonaro. Quelqu'un comme Neymar s'affiche avec lui. Donc c'est pas du tout encore la même vision. Mais effectivement, tout ça va être mis sur le tapis. Et la prochaine Coupe du Monde, sur 3 États gigantesques, Canada, États-Unis, Mexique, en termes d'environnement, c'est une catastrophe.
Mais
c'est sûr.
Vicage Dorasso, il doit quand même y avoir une manière d'intérioriser cette contrainte pour les joueurs, surtout pour les clubs de foot, notamment en France, puisque l'opinion publique s'est émue de cela, les responsables politiques, ce qui là aussi doit quand même peser sur les responsables de clubs.
Il faut relocaliser, mais comme pour toute notre société, enfin au niveau du commerce, comme du football. Je pensais à notre championnat, si demain on faisait 2 zones nord et sud pour éviter les grands déplacements, il y aurait une zone qui n'aurait pas le Paris Saint-Germain, qui ne recevrait pas le Paris Saint-Germain, par exemple. Donc c'est pas possible.
Mais on peut par exemple leur demander de prendre le train. Ce qui...
Voilà, mais par exemple, pour le match, il pourrait se jouer à 15h. Mais en fait, s'il se joue à 15h, il faut quand même allumer le stade pour la diffusion. Donc en fait, on est un peu piégé et le foot, c'est important. Moi, je pense qu'en fait, on peut se passer d'une Coupe du Monde, on n'en mourrait pas. Il y en a plein qui ne vont pas la regarder. Moi, j'adore regarder le foot.
Je suis pas sûr.
Voilà, mais voilà, comment faire ? Moi, j'ai un sentiment qu'on est piégé parce que...
Mais tout a été... Mais c'est plus globalement, au-delà de la Coupe du Monde et du football, c'est-à-dire que tout ceci a été pensé au XXe siècle. Avec l'idée que finalement...
C'est vrai dans d'autres sports aussi, hein,
parce que le sport, par exemple,
sur le Tour de France...
Des tournées de record. Est-ce que vous pensez que le monde de la mode a été pensé pour protéger l'environnement ? Enfin, c'est une catastrophe. Les uns se déplacent de ville en ville, prennent des jets privés, ça n'a absolument aucun sens. Mais parce que tout ceci a été pensé au XXe siècle. Et avec l'idée que l'énergie était inépuisable et qu'on pouvait faire ce qu'on veut. Mais ça va poser d'énormes problèmes, effectivement, pour l'organisation de ces grands tournois.
Carole Gomez, est-ce que vous voyez le foot évoluer sous ces nouvelles pressions ?
Alors c'est ça qui est aussi intéressant, et c'est juste un tout petit retour en arrière pour compléter ce qui a été dit qui était très juste. Il y a aussi un phénomène de multiplication de compétitions. On a vu fleurir au cours des dernières années des compétitions de plus en plus nombreuses, la Ligue des Nations par exemple, pour ne parler que de football, ou d'autres matchs amicaux qui se sont multipliés, Et sans compter, et on en parlait de la Coupe du Monde 2026 masculine, non seulement elle aura lieu à l'échelle d'un continent, mais également il y aura une augmentation du nombre d'équipes. On passera de 32 équipes à 48, ce qui, d'un point de vue environnemental, multiplie complètement les différents enjeux. Pour répondre à votre question, j'ai, au cours des derniers mois, eu la naïveté de penser qu'il y avait une espèce de prise de conscience, notamment à la suite d'un certain nombre de scandales. On peut penser aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin, où l'absence de neige a très largement choqué. On a eu la multiplication de catastrophes climatiques à l'échelle du globe, et qui ont forcément interrogé et questionné notre propre rapport avec l'environnement et aux activités qu'il y avait. Et j'ai eu l'impression, notamment avec différentes annonces de la part de fédérations internationales ou de la part du Comité international olympique, que ces éléments-là avaient été saisis. On a en tête, par exemple, qu'il y a déjà depuis plusieurs années déjà, le CIO s'est investi sur la volonté de faire des jeux verts, d'avoir en tête la question de l'héritage, de la soutenabilité, de la sustainability des infrastructures. Pourtant, force est de constater que cette prise de conscience n'apparaît en tout cas que de façade, puisque alors que dans un même temps vous avez ces annonces extrêmement encourageantes, ces accords qui sont passés avec des ONG qui justement se mobilisent sur la question de la lutte contre le changement climatique, vous avez dans un même temps ces décisions d'augmentation de compétition, ces décisions d'attribution de compétition sportive internationale.
Oui, ce qui peut sembler effectivement tout à fait paradoxal. Un mot de conclusion, Olivier Guest, donc on a compris, vous allez suivre la Coupe du Monde, le passionné.
Je suis en train de lâcher, j'ai dit. Je vais voir, ça va encore prendre quelques jours, mais oui, c'est sûr.
Vous pensez que ça va bien se passer pour la France ?
Mais je dois dire, toutes ces absences, et le fait qu'il y ait une défense extrêmement inexpérimentée, mais je trouve ça intéressant parce qu'ils vont devoir jouer. En fait, ils vont devoir marquer un but de plus que l'adversaire. Donc ça va être une équipe de France tout à fait différente de celle qu'on a vue depuis une vingtaine d'années.
C'est étonnant parce que pratiquement aucune des stars ne participe à cette équipe. Non, je pensais notamment...
Oui, il en manque évidemment, mais le fait qu'elle soit déséquilibrée, je trouve ça assez intéressant. L'identité de jeu de l'équipe de France va peut-être enfin changer, ce qui est pas mal.
Donc ce qui vous fournit, hélas, une raison supplémentaire de regarder les matchs qui vont suivre.
Absolument, sans compter toutes les autres équipes, c'est terrible.
Bon, écoutez, on compatit à votre dilemme. Merci beaucoup, gentil. Olivier Guez, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Vikash Dorasu et merci également à Carole Gomez. Dans quelques instants, le point sur l'actualité, le 8h45 de France Culture, présenté par Anne Lorjoin.